Radio Okapi. Interface.
Le problème de développement de la RDC à partir de la base se pose avec beaucoup plus d'acuité. Malgré les efforts du gouvernement dans l'accroissement du budget et surtout dans la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires, les provinces, les villes, les communes, les territoires, les quartiers et avenues connaissent de sérieux problèmes plongeant la population dans la misère. Des routes quasi inexistantes condamne certains quartiers à l'enclavement total, alors que des centaines de têtes d'érosion menacent des quartiers entiers à la disparition. Après chaque pluie, suite à la mauvaise gestion des immondices qui bouchent les caniveaux, les Congolais sont appelés à faire face à des inondations, des érosions, tout en enregistrant plusieurs cas de décès. Des problèmes multiples pour peu de moyens, quelle politique mettre en place pour booster le développement de la RDC à la base ? Interface reçoit dans ce numéro Maître Pépin Kwampuku, président de la Fondation Terre d'Avenir, qui encadre plusieurs associations engagées dans le développement à la base. À la coordination et présentation, je suis Michel Kifindangoy. Merci de rester à l'écoute. Fidèles auditeurs des radios Okapi, bienvenue dans Interface de ce matin. Nous recevons Maître Pépin Kwampuku, avec qui nous abordons la problématique du développement de la RDC à partir de la base. Avant de prendre notre invité, notez que la population congolaise est confrontée à des sérieux problèmes d'infrastructures locales et d'organisation de l'autorité municipale pour faire face à des multiples problèmes que connaît le pays sur le plan local. Conséquence, après chaque pluie à Kinshasa, Bukavu, Kananga, Kalemi et dans plusieurs autres villes et territoires de la RDC, c'est des pleurs et grincements des dents déplorent les populations congolaises. Les dégâts les plus dramatiques sont ceux causés par la pluie de mardi 13 décembre dernier à Kinshasa, occasionnant près de 150 morts suite aux écroulements des murs, des érosions. Reportage, Kelly Yoka.
Jusque-là, la commune de Ngalima semble avoir subi le plus lourd dégât humain. 60 morts, d'après son bourgmestre, Dieu merci, Maïban Zilwanga.
Au niveau des quartiers Pigeon, on a 19 morts. Maninga, Dekors, Malueka et Mamayemo, 11 corps. Bongo, 9 corps. Munganga, 3. Bumba, 1 seul corps. Kelombinza, 9. Bango, 6 corps.
À quoi sont dus tous ces morts?
D'abord, des éboulements de terre, manque de canalisation des eaux et puis des constructions anarchiques.
Puis, suit celle de Mongafula avec une trentaine de morts, selon son bourgmestre. Ici, la route de Matadi s'est aussi coupée en deux au niveau de la place dite en vrac. Selembao compte, elle, plus de 12 morts, renseigne son bourgmestre, c'est suite aux écroulements des murs au quartier Kipoy, Mbala, Badiadingi et Cité Verte.
Ce mois, vraiment, c'est la désolation. Plus de 12 morts, plus de 20 blessés graves dans des hôpitaux. D'autres, vraiment, sont dans des états critiques. Ça nécessite des soins appropriés.
La commune de Kitambo compte 5 morts au quartier Luboudou, Luka, 4 morts à Bandalungwa, au quartier Makelele. Limité, elle, a enregistré 3 morts provisoires au quartier Mateba. Ce bilan est provisoire. Plusieurs cas d'inondation sont aussi enregistrés dans la ville. Conséquence, les activités ont tourné au ralenti dans plusieurs secteurs de la ville.
Le problème de sous-développement au niveau local affecte aussi les infrastructures nationales, comme ce fut le cas avec la pluie du 13 décembre dernier, qui a aussi coupé la route nationale en deux entre Matadi Kibala et la salle de fête en vrac ici à Kinshasa, comme le témoigne le DG de l'Office des routes. Jeannot Kikangala est au micro de Blaise Shindani Kambala.
Ce que nous venons de constater relève de ce qu'on appelle catastrophe naturelle qui vient de frapper sauvagement la population de ces coins de la ville. Et non seulement la population est frappée du fait que la pluie a fait des dégâts, il y a eu des pertes en vie humaine. Bon, nous attendons qu'une évaluation soit faite avec fiabilité pour dire des choses avec précision. Mais les conséquences de cette catastrophe en rapport avec la coupure de la route ont rapidement interpellé toutes les autorités de la République qui s'informaient de la situation. Et l'évaluation est en train d'être rapidement faite pour qu'une solution rapide et urgente soit. Ce sont des travaux de génie civil. On ne sait pas prédire les temps nécessaires pour la réhabilitation de la situation. Mais ce qui est important est que les autorités de la République sont préoccupées par cette situation.
Interface. Maître Pepin Kwampuku, bonjour.
Bonjour, monsieur Michel Kifindangoy. Merci de nous avoir fait confiance pour passer sur vos antennes aujourd'hui.
Qu'est-ce qui explique l'accroissement de la misère en RDC en dépit des efforts du gouvernement?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous allez vous rendre compte que le gouvernement veut tout centraliser et il n'est pas à mesure de prendre véritablement en compte les desiderata de la base. Les structures de base de nos administrations ne sont pas outillées, n'ont pas tous les moyens nécessaires pour pouvoir accompagner les desiderata.
Plusieurs quartiers connaissent aujourd'hui des problèmes de délabrement de routes, des érosions, des inondations, de manque d'eau et d'électricité. Comment y faire face?
Tous ces quartiers qui connaissent ces problèmes ont des difficultés d'avoir des structures de l'État à la base pour résoudre les problèmes de ces quartiers, les problèmes de nos villages, les problèmes de nos villes. Il y a des contraintes, notamment légales, qui ne permettent pas à ce que les initiatives de la base puissent contribuer au développement de la population. Déjà en matière des routes, il n'y a que l'État qui peut construire des routes. Ça, c'est déjà un grand obstacle. Il faudrait qu'on arrive à revoir, à modifier nos lois, pour que les lois permettent que la population, les gens qui sont à la base, qui sont structurés, qui sont organisés, qui peuvent contribuer à la construction des infrastructures publiques et que la loi soit ouverte, donne des possibilités comme dans d'autres pays, la population à la base, en collaboration avec l'État, peut arriver à contribuer au développement. Si on en arrivait à une telle situation, je crois qu'on n'aurait pas beaucoup d'érosion dans nos villes, beaucoup de villes délabrées, beaucoup de routes non construites, parce que la population a la possibilité elle-même aussi de contribuer au développement, de contribuer à la construction des infrastructures.
Mais seulement, cette population se trouve actuellement dans une pauvreté profonde qui l'empêche de prendre ses initiatives de développement. Que faire pour aider cette population à se prendre en charge?
Aujourd'hui, si la population peut s'organiser autour des associations, autour des structures officielles comme les fondations, et que l'État accompagne véritablement toutes ces associations qui œuvrent à la base, je pense que malgré ces difficultés, la population peut arriver à apporter des solutions moyennes avant que l'État n'arrive avec des grandes solutions. Quand on est en association, on constitue une force que quand on agit seul. Et là, c'est aussi le rôle de nos élus. Je voudrais dire un mot là-dessus. Nos élus doivent être de véritables acteurs de développement. On ne peut pas être élu tout simplement pour siéger à l'hémicycle et ne pas organiser la population à la base, trouver des mécanismes d'accompagnement des associations qui sont à la base, qui œuvrent, avoir une attention particulière pour être un acteur de développement. Parce qu'un élu qui ne sait pas amener le développement vers sa base, il n'en est pas un. Il n'a servi à être élu que pour lui-même. Il faudrait que les élus comprennent qu'ils peuvent canaliser les efforts de la population, accompagner la population et l'aider à organiser ses aspirations au lieu d'être chaque fois dans des vacances parlementaires en dehors de sa circonscription, en Europe, par-ci, par-là. On doit avoir des idées de développement qui doivent aider la population. Et je trouve qu'on doit avoir des élus qui sont véritablement des acteurs de développement.
Les étudiants sont divisés, la société est divisée, même nos maires au marché sont divisés. Oh Lord, mon pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal. Avant on ne parlait pas de chrétiens ni de musulmans, mais aujourd'hui ils ont tout gâté. L'armée est divisée, les étudiants sont divisés, la société est divisée.
Mon pays va mal, c'est une composition de Tiken Jaffa Coli.
Vous êtes président d'une fondation et vous initiez vos membres à l'autoprise en charge pour le développement de votre milieu de vie. Qu'est-ce qui a motivé votre initiative?
C'est les journalistes. Je suis entré dans ce quartier en 2015 au mois d'août. Mais j'avais acquis ma parcelle en 2009. J'ai commencé à construire avec mes moyens de bord. C'est en 2015 que je suis entré. Et déjà en 2015, mon véhicule ne pouvait pas entrer dans la parcelle parce qu'il y avait déjà affaissement de la route. Donc depuis 2011 à 2015, on a perdu presque 3 mètres de route et on était dans une érosion. Pour que je puisse organiser mon entrée, j'ai dû dépenser, débourser beaucoup d'argent pour récupérer le niveau de la route qui était perdu. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé individuellement avec certains amis, certains notables du quartier, à lutter pour que ce quartier ne disparaisse pas. Parce qu'en 2015, quand je suis entré, à la suite de certaines pluies diluviennes, il y a eu 11 morts dans ce quartier. D'après plusieurs années, presque 8 ans de lutte pour que la route ne disparaisse pas, je me suis rendu compte que je me ruinais sérieusement. Il fallait peut-être créer une structure qui peut obtenir aussi de l'aide, pourquoi pas des subventions et de l'accompagnement de certaines organisations, de certaines structures aussi, qui peuvent nous aider à maintenir cette route qui est déjà en voie de disparition. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des endroits où la route a perdu 7 mètres de profondeur et nous nous retrouvons dans une érosion. Et c'est pour cette raison que j'ai créé la fondation dénommée Fondation Terre d'Avenir, pour pouvoir répondre à tous ces problèmes de développement qui se posent dans mon quartier. Et ces problèmes, ils sont nombreux, ils sont énormes, mais principalement, il y a les érosions qui menacent les parcelles. Certaines personnes ont déjà perdu leurs parcelles. Nous avons plus de 14 têtes d'érosion dans ces quartiers. Et je vous dis que c'est un quartier en voie de disparition. Et la Fondation Terre d'Avenir est venue pour apporter une solution à tous ces problèmes.
Et qu'est-ce que vous avez déjà réalisé concrètement dans le cadre de votre fondation?
Merci encore une fois, messieurs les journalistes. Dans le cadre de notre fondation, nous avons d'abord sélectionné certaines associations que nous avons trouvées viables dans les quartiers. Mais ces associations manquaient de documents, n'avaient pas la personnalité juridique pour pouvoir bien fonctionner. Parce que nous nous sommes rendus compte que seuls, nous ne pourrions pas faire tout ce travail. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 4 associations actives dans ces quartiers qui ont leur statut notarié et qui ont reçu les F92 déjà du ministère de la Justice pour pouvoir commencer à fonctionner dans les normes. Ces associations vont, ensemble avec la Fondation Terre d'Avenir, contribuer à des travaux de développement, contribuer à la sensibilisation des personnes de bonne foi pour pouvoir lutter contre les érosions, pour pouvoir lutter contre la criminalité dans notre quartier, lutter contre la délinquance juvénile dans notre quartier et lutter contre l'analphabétisation. La Fondation, au jour d'aujourd'hui, a réalisé un grand collecteur pour accompagner les eaux qui détruisaient les parcelles qui ont créé une grande érosion, accompagner toutes ces eaux de pluie jusqu'à la rivière Kalamu qu'on appelle en bas. Et c'est un collecteur de plus de 400 mètres. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez appris, lorsqu'il a plu dernièrement ici, lorsqu'il y a eu même des morts, dans notre quartier, nous sommes le quartier Plateau 1, à côté du plateau des professeurs, il n'y a plus eu de dégâts comme les années antérieures où il y avait des morts d'hommes. Donc nous avons réalisé ce travail-là, nous avons pu bétonner quelques endroits de la route qui étaient impraticables pour que les véhicules essayent de circuler dans de bonnes conditions, et ça c'est à notre actif.
Et dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire par exemple, là aussi vous y êtes investi?
Absolument, nous encadrons les mamans maraîchères, nous sommes sur une vallée où il y a beaucoup de maraîchères qui produisent beaucoup de légumes qui nourrissent la ville de Kinshasa viennent de notre quartier aussi, ainsi que tous les bassins de la rivière Ndjili. Et nous encadrons toutes ces associations-là à l'heure d'autant des intrants agricoles, à l'heure d'autant du matériel agricole pour pouvoir produire. Et donc, ça apporte la solution au problème de l'alimentation. Et grâce aux moyens qu'ils reçoivent par la vente de leurs produits maraîchers, ils arrivent aussi à assurer la scolarité de leurs enfants et à subvenir à leurs besoins. Nous sommes donc acteurs aussi de développement dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire.
Il y a des domaines d'intervention qui sont réservés exclusivement à l'État congolais, comme la construction des routes, vous l'avez d'ailleurs souligné. Cela n'est pas un obstacle pour vos actions de développement?
Effectivement, c'est un obstacle majeur, comme nous l'avons dit. Cette centralisation à outrance des domaines d'intervention de l'État, ça devient un obstacle aussi au développement, parce qu'il y a des routes qui peuvent, si la population organisée en association, ensemble avec la municipalité, arrive à travailler, on peut éviter des dégâts que nous subissons chaque fois dans nos villes à cause des érosions, à cause des éboulements de terre, à cause des inondations. Parce que aujourd'hui, même pour curer une rivière qui est dans un quartier, si on doit attendre seulement le pouvoir central, mais nous allons disparaître parce que tout ne peut pas être fait par le pouvoir central.
Et quelles sont les réformes que vous pensez prioritaires pour booster le développement à la base?
Justement, au jour d'aujourd'hui, vous avez entendu, je crois, avec moi, que le gouvernement avait un programme de développement de 145 territoires. Mais ce développement ne peut être réel que si on dote véritablement du pouvoir à la base pour réaliser également des travaux de développement. Il faut qu'il y ait des réformes, nous estimons, de nos lois qui permettent que même les particuliers qui sont en mesure de réaliser des travaux publics, encadrés par l'État, puissent les faire. Si nous arrivons à faire contribuer toutes ces associations, toutes les personnalités qui ont envie d'amener le développement, je pense que nos lois vont être utiles au développement du pays. Sinon, ça va être difficile d'attendre tout du pouvoir central.
Est-ce que les élections peuvent aussi être une opportunité pour le développement local?
Absolument, les élections sont une grande opportunité, mais il faut, pour qu'elles soient véritablement, que les acteurs politiques qui sont engagés dans les processus politiques soient également des acteurs de développement. On n'a plus besoin au Congo des acteurs qui viennent juste pour distribuer des tricots, distribuer de l'argent aux électeurs, mais qui n'ont aucun projet d'abord dans leur développement. Un député doit avoir un bureau d'études. Un député doit avoir tout un programme de développement qui l'accompagne. Il n'est pas là juste pour faire les contrôles parlementaires, il n'est pas là juste pour initier des motions, initier des questions orales et écrites, mais il est d'abord lui-même un acteur de développement. Il doit à la base être une personne qui impulse le développement, qui impulse avec ses idées, avec les associations qu'il y a autour de lui, dans sa base, pour qu'il les amène à être.
Nous sommes à 3 cycles électoraux et la population a envoyé à chacun de ces cycles des personnes en qui on espérait voir une implication totale pour leur développement, mais malheureusement, elle semble toujours être déçue. Qu'est-ce qui explique cette déception de la population face à ses élus?
Justement, messieurs les journalistes, nous avons connu 3 cycles électoraux. Malheureusement, la population a voté des gens, non pas sur base des programmes, non pas sur base des idées, ils ont voté des gens peut-être sur base des dons, sur base des paroles flatteuses, sur base des promesses fallacieuses, des gens qui ne connaissent même pas la souffrance d'une population, ils viennent juste prendre des voix, ils partent, ils ne reviennent jamais vers cette population pour voir au quotidien comment elle vit. Ils passent leurs vacances parlementaires en Europe, en dehors de leur base, ils n'arrivent même pas, et ce sont des fois des personnes, quand elles sont élues, elles restent dans la base et quittent la base pour aller se retrouver à la Gombe, par-ci, par-là, ils oublient la base. Et en cela, ces élections n'ont pas apporté de solution. Il faudra désormais que la population s'appuie sur des véritables acteurs de développement qu'ils doivent découvrir dans leur base, qui vivent avec eux, qui connaissent leurs problèmes, qui travaillent avec eux au quotidien et qui ont le cœur dédié au développement de leurs milliers. Je trouve que on doit désormais changer de paradigme de notre politique, amener une politique de développement, et c'est ça qui va faire changer les choses.
Nous sommes à la veille d'un nouveau processus électoral et c'est notre dernière question. Comment chaque Congolais pourrait-il parvenir à transformer son vote en action de développement pour son quartier ou pour son milieu de vie?
C'est la réponse à cette question constitue pour nous une interpellation de la population. La population doit s'appuyer, doit donner, chacun des électeurs doit donner sa voix à un candidat acteur de développement. Un candidat soucieux de la population et non un candidat qui vient acheter les voix, les consciences. Il vient acheter juste et il disparaît. Il ne laissera jamais cette population-là dans la joie. Et 5 ans après, il reviendra encore alors que la population a besoin d'un accompagnement au quotidien. Nous estimons que la population doit tirer les leçons de toutes ces années où les électeurs n'ont pas démontré qu'ils étaient attachés à leur milieu, attachés à leur circonscription, attachés aux problèmes de leur base, attachés au développement de leur base. Il faut qu'elles ouvrent les yeux, qu'elles tirent les leçons de toutes ces déceptions pour comprendre désormais que leur vote peut être une occasion de développement ou de changement de leur vie.
Donc, en quelque sorte, la population devrait dénicher les opportunistes qui viennent seulement à la dernière heure pour se faire voir.
Absolument. La population doit évaluer chaque candidat. Qu'est-ce qu'il a été? Qu'est-ce qu'il est pour eux? Qu'est-ce qu'il fait au quotidien pour eux? Quel est l'accompagnement qu'il leur donne pour pouvoir aider à changer leur vie? Et on ne peut pas de fier à ce que moi j'appelle des politiciens de circonstances. Politiciens de circonstances sont ceux qui apparaissent seulement au moment des campagnes électorales pour chercher des voix. Il faut que la population s'attache aux acteurs de développement et non aux politiciens de circonstances et de véritables opportunistes qui ne viennent que pour prendre les voix et partir le lendemain sans plus se soucier des personnes qu'ils ont rencontrées parce qu'ils n'ont aucun attachement à ces personnes.
Donc c'est aussi une interpellation pour ces acteurs de développement de poser leur candidature parce que sinon s'ils ne sont pas candidats, bon, la population va se fier à ceux qui se présentent.
Absolument, c'est une interpellation pour que toutes les personnes qui se battent au quotidien pour une population, que ces personnes se positionnent désormais pour être de véritables avocats de cette population, parce que ne pas s'engager dans ce processus, c'est laisser la voie libre à ces opportunistes qui viendront, qui prendront des voix et qui repartiront parce qu'ils n'ont aucun projet de société. Ça n'aura servi à rien, cette élection pour cette population.
Maître Pepin Kwampuku, je vous remercie.
Merci également à vous, monsieur le journaliste.
Fin d'Interface sur Radio Okapi. Cette émission vous a été produite avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement. Michel Kifinda vous l'a coordonné et présenté sous la supervision de Jean-Marc Matoaki et Martin Sebou-Jangoué. Je prends rendez-vous avec vous pour un nouveau numéro lundi prochain à 8h30. Vous pouvez suivre la rediffusion de cette émission mercredi à 15h30 et à 22h. Merci et au revoir.